rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission animée par Nathalie Croiset.
C'est donc une nouvelle séquence dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Il est important de parler de construction, on en parle beaucoup. Il ne faut pas oublier non plus la notion d'usage, la place de l'habitant, la qualité de son bien-être. Et c'est tout l'enjeu aussi de ces thématiques qui sont développées dans cette séquence. On va parler de rénovation urbaine, d'îlots de quartier aussi, avec la présentation d'un outil numérique, KIM, pour quartier intelligent modélisé, mais pas seulement. Vous allez voir, ça va balayer aussi beaucoup de sujets. Alors en plateau, je ne retrouve que des têtes connues. Donc je suis ravie de vous accueillir. Jean-Pascal Chira, bonjour.
Bonjour.
Délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Je ne vais peut-être pas vous laisser présenter une nouvelle fois le Club de l'amélioration de l'habitat. Vous pouvez toujours le faire. Allez-y.
Allez. Parce que ça fait 30 ans que ça dure. et parce qu'effectivement, il y a 30 ans, un certain nombre de grands acteurs ont réfléchi à ce que devenait prioritaire, c'est-à-dire la qualité du bâti existant, sa performance, mais aussi la qualité de vie, la qualité d'usage, des grands sujets qui arrivaient après une très longue période, qui avait été une période de densification urbaine, mais il devenait nécessaire de s'intéresser vraiment à la qualité de vie de l'existant. Voilà pourquoi on a créé ce club, et ça dure toujours.
Exactement, il n'y a pas de raison, hein, déjà 30 ans, 30 ans encore, et ça peut durer longtemps. Exactement. François Pellegrin, je suis ravi de vous retrouver, bonjour.
Bonjour.
Architecte urbaniste au sein de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, quelques mots supplémentaires ?
Écoutez, non, je pense qu'on va développer.
En dehors du fait que vous êtes ravi d'être ici.
Bien sûr, ravi d'être ici et de pousser ensemble avec les partenaires qui sont présents, des belles idées.
Exactement, et donc on va en parler. Et puis notre troisième intervenant, Sébastien Delpont. Alors bonjour.
Bonjour.
Merci, un directeur associé de Greenflex et aussi fondateur d'Energy Sprong France. Alors vous n'étiez pas là parce que je sais que vous avez une matinée chargée, mais nous avons parlé pendant 30 minutes de ce qui se passe en ce moment à Waterloo. Donc Energy Sprong, je peux vous dire qu'ils en ont fait de la pub. Hein.
Eh ben tant mieux.
Voilà, exactement.
Merci à eux. Non mais je pense qu'il y a un sujet qui est clé et c'est important de partager ensemble. Hein. C'est que réussir cette décarbonation de la société, ça va être profondément un sport collectif. Et donc c'est important que beaucoup de professionnels de regards, d'horizons variés, en discutent et débattent des bonnes façons de l'accélérer.
Voilà, bah vous avez dit le bon mot parce que le fil conducteur, on a commencé avec un climatologue, un Hervé Le Treut, on a parlé de décarbonation de l'acte de construire, on sait vraiment le sujet qui est le fil conducteur de cette matinée. Alors, on en arrive à notre sujet autour d'un groupe de travail qui a été mis en place ça il y a 2 ans. Opéra EU, c'est ça?
Oui,
exactement.
Voilà. Ouais, voilà. D'une manière générale, le club de l'amélioration de l'habitat travaille sur plusieurs axes. Un qui est celui des études, au sens large, économique et notamment l'approche du comportement des consommateurs, mais aussi des réflexions partagées sur toutes les solutions qui permettent de densifier, de massifier la rénovation au sens large, l'amélioration de la rénovation au sens large du parc résidentiel. Mmh. Voilà. Alors dans ce cadre-là, nous avons plusieurs thématiques et il y a effectivement 2 ans. Nous avons mis en place une thématique de réflexion qu'on a appelée OPRAE, François Pellegrin va en parler plus largement, opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine, qui porte son regard sur toutes les solutions qui vont permettre de rénover à l'échelon de quartier, donc au-delà du bâtiment proprement dit, et ce qui nous conduit à cela, d'une manière générale, c'est une réflexion partagée également sur l'embarquement des décideurs, et on va le voir au fil de la présentation, de manière à avoir une démarche beaucoup plus forte et plus puissante. Voilà, donc c'est ce que nous avons appelé OPRAE.
OPRAE, voilà, parce que comme ça se termine par un EU, j'ai mal prononcé, mais OPRAE, il faut bien le dire. Alors, ça consiste en quoi? L'idée, c'est un changement de maille, hein, c'est ça, pour revitaliser la ville, François Pellegrin?
Oui, on va voir, on a quatre actions maîtresses. La première, c'est changer de maille. La deuxième, c'est réinventer la gouvernance. La troisième, c'est ce KIM. Mm-hmm. Et la quatrième, c'est industrialiser, innover, etc. Alors oui, changer de maille, c'est 2 choses. C'est élargir le périmètre physique. Mm-hmm. On constate que la parcelle et l'immeuble sur la parcelle, c'est un terrain de jeu, entre guillemets, qui est très restrictif. Si on veut être intelligent, si on veut mutualiser, si on bénéficie d'effets d'échelle, d'économie d'échelle, eh bien, effectivement, la première idée, c'est de changer le territoire, enfin, la taille de l'opération. Mais la deuxième idée, c'est aussi d'élargir les sujets. Quittons, n'oublions pas la thermique, Mais on a tous découvert avec la Covid, avec plein de choses, que maintenant, il faut embarquer le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité, le zéro artificialisation net des sols, enfin voilà.
Il ouais, ne faut pas être uniquement tourné vers les sujets d'énergie, c'est ça que vous voulez
non,
dire.
Mais non, absolument, et le sujet, et embarquer tout ce que je viens de citer à l'échelle d'une parcelle, c'est très difficile. À l'échelle d'un îlot, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent. Et donc, c'est déjà ce premier point.
Mais ça se définit comment, comme un îlot de carte, un îlot
ah bah,
de quartier.
C'est très simple, un îlot. Un quartier, c'est plus difficile. Ouais. Quelle est la frontière? Voilà. Un îlot, c'est très simple. C'est ce qui est défini par des voiries.
D'accord.
Voilà. C'est une île. Enfermé par des...
sans eau autour, mais c'est
voilà,
une île.
Voilà, c'est une île. Il peut y avoir de l'eau dans certaines régions. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc il peut faire un hectare, trois hectares. Enfin, c'est, bon, souvent, enfin, je sais pas, on a l'îlot, c'est 100 mètres par 100 mètres. Quoi, quand on fait dans des aménagements nouveaux, c'est un peu l'échelle. Donc on va trouver toutes sortes de types de tissus urbains. Notre raisonnement, notre outil KIM, notre démarche, elle voudrait démontrer qu'elle peut, sur ces îlots, qu'ils soient constitués de maisons individuelles, donc peu denses, qu'ils soient en bourg ancien, R plus 2, R plus 3, qu'ils soient dans une ville plus dense, R plus 4, R plus 5, ou qu'ils soient dans des quartiers type Énergie Sprong, enfin traités par Énergie Sprong. Voilà, on peut montrer que ça s'applique. Il n'y a, pas une granulométrie précise. L'idée, c'est de réenchanter l'îlot. Redonner du plaisir et la fierté d'habiter cet îlot.
Ouais, parce que j'en parlais, hein, c'est au cœur aussi de cette séquence, c'est vraiment la place de l'habitant, la qualité du bien-être, et c'est au cœur de cette définition, on n'est pas uniquement en train de parler d'aspects, on va dire, techniques. Non. Je vais vous faire commenter la deuxième partie dans un instant, l'évolution de la gouvernance, mais peut-être un mot, parce que je le vois prendre plein de notes aussi, de Sébastien Delpont pour commenter ce premier aspect sur l'idée d'un changement de maille.
Je pense que on a un sujet essentiel qui est démocratiser au plus grand nombre l'accès à des solutions décarbonées. Et pour ça, il faut oser explorer tous les périmètres d'optimisation. Et donc, il y a différentes échelles sur lesquelles on va pouvoir travailler pour rendre que l'habitat bas carbone soit le plus abordable. Bien évidemment, il y a des travaux à mener à des niveaux matériaux, équipements, avec les industriels. Il y a des travaux à des optimisations à mener à l'échelle du bâtiment. Et bien évidemment aussi à l'échelle de l'îlot ou du quartier. Et donc le sujet, c'est comment on n'oublie pas d'explorer ces différentes échelles d'optimisation possibles qui nous permettra, voilà, à une échelle quartier ou îlot, d'optimiser, en tout cas d'éviter des suréquipements et des redondances d'équipements, parce qu'on va intelligemment. On va optimiser aussi des programmations, parce qu'on compte qu'il y a des fonctions urbaines manquantes à certains endroits qu'on va compléter intelligemment avec une vision urbaine plus globale. Et je pense qu'en tout cas, voilà, notre vocation et raison d'être, c'est d'être profondément une plateforme d'innovation ouverte en réflexion et en regardant avec intelligence tout ce que produisent comme intelligence les uns et les autres. Et c'est particulièrement intéressant de connecter et de voir comment, en tout cas, voilà, ce que produisent les gens de notre écosystème peut nourrir ce type de réflexion et inversement, comment on peut se nourrir de l'intelligence qui ressort de ces réflexions.
Alors ça, c'était donc le premier aspect. Sur l'autre, alors, les enjeux d'évolution de la gouvernance, qu'est-ce qu'il en est, Jean-Pascal
Chira? Voilà. Dans une opération groupée, mutualisée, forcément, on doit élargir le champ des décisions. Il y a quatre grands acteurs, en fait, qui interviennent. Alors, ce sont les élus, bien sûr, les territoires. Ce sont ce qu'on va appeler les maîtres d'usage, maîtres d'ouvrage, donc en l'occurrence, les propriétaires. Les investisseurs aménageurs, qu'ils soient publics ou privés, et c'est l'État. Donc l'idée, bien sûr, dans une opération groupée comme celle-ci, c'est de mobiliser les synergies publiques et privées en associant l'ensemble de ces acteurs, je l'ai dit, les aménageurs, services publics, promoteurs, bailleurs sociaux, maîtres d'œuvre, entreprises, industriels, notaires, voilà, l'ensemble des acteurs, de manière à la fois à coordonner les actions, les décisions, de mettre en place ensemble des solutions innovantes, notamment en matière d'ingénierie juridico-financière. On va parler d'opérations de type les fiducies, hein, qui consistent à faire porter par des tiers les financements, les CEMOP, sociétés d'économie mixte à opération unique, etc. Donc, l'idée, là, c'est de justement de faire preuve de ressources, de solutions qui vont permettre de rendre possible des opérations collectives alors qu'elles ne sont pas spontanées. Elles ne sont pas innées parce que c'est pas simple de mettre en ligne, en quelque sorte, des décideurs, hein, des acteurs, et de permettre à une opération d'aller jusqu'à son terme. Alors que nous savons très bien que c'est une des clés de la rénovation massifiée que celle de pouvoir raisonner à l'échelon des îlots.
Alors vous l'avez dit, il y a quatre acteurs, hein, les élus, la maîtrise d'ouvrage, les investisseurs, hein, qu'ils soient publics ou privés, et l'État aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être besoin d'une forme de tiers de confiance, on va dire aussi, pour pouvoir rassembler ces acteurs qui puissent aussi dialoguer ensemble. Dans certains cas, le dialogue est facile, peut-être dans d'autres, moins.
Le tiers de confiance fait partie de ces quatre acteurs. Et notamment, les élus doivent détenir en eux des solutions qui vont permettre de faciliter cette relation. Et on va voir d'ailleurs dans les outils que nous allons mettre en œuvre, notamment les outils numériques dont François va parler, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de créer également ces relations de confiance.
C'est important. Est-ce que vous voulez les uns les autres quand même commenter cet aspect-là quand même qui est central sur la gouvernance aussi. Il y a l'accompagnement des habitants aussi. Voilà. Je pense que Sébastien Delpont va pas être aussi va aller dans le même sens.
Sur le sujet de la gouvernance, oui, il faudra bien. Alors France Rénov avec MaPrimeRénov a remis en lumière la notion d'accompagnateur, de tiers de confiance. Les architectes sont habitués, les architectes urbanistes sont habitués à jouer ce rôle-là. Mais là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il va falloir articuler des décisions de dominantes privées, dominantes publiques. Donc oui, il faudra trouver l'opérateur qui a la confiance de tous ses copropriétaires ou propriétaires publics s'il y en a. Donc, mais dans le jeu des acteurs, quand il y a des ZAC, quand il y a des... Voilà, ce sont des rôles parfaitement connus, parfaitement identifiés. Donc, on n'est pas inquiet là-dessus. Il n'y a pas un métier nouveau à inventer. On saura trouver cet homme, mais il faudra effectivement un pilote dans l'avion.
Sébastien Delpont.
Je partage complètement les points qui ont été évoqués, et avec peut-être un élément complémentaire, c'est qu'il y a des changements qui vont devoir être faits en extra-organisation, qui vont travailler ensemble, mais qu'aussi à l'intérieur des organisations même, des changements. Parce que la ville bas carbone, c'est un profil d'investissement un peu différent, où on investit beaucoup plus en intelligence et en qualité au départ pour moins de charges, mais c'est-à-dire qu'il y a cette bascule de dépenses de charges qui se transforme en dépenses de surinvestissement qualitatif au départ. Et forcément, ça intègre aussi la question financière, et ce qu'évoquait Jean-Pascal, comment, en tout cas, qui finance quoi, comment, pourquoi, comment les directeurs techniques de maître d'ouvrage vont parler à leur directeur financier, comment le directeur financier va penser à son banquier, enfin, et c'est là qu'il y a tous des montages qui doivent être faits, et c'est cette nécessaire, en tout cas, coordination interacteur et intra-acteur qui a mené, et pour lequel on a besoin effectivement d'un dialogue commun, en tout cas d'un alphabet commun pour arriver à avoir ce sujet et qu'il faut outiller de mieux en mieux.
Alors outiller, parce qu'on parle d'outils, on va parler aussi des outils numériques, hein, parce que quand on parle de transition écologique, il y a aussi la transition numérique. On a commencé, et j'en ai parlé en introduction, de cet outil numérique KIM, hein, pour quartier intelligent modélisé. Alors ça se situe, François Pellerin, entre le BIM et le SIM, c'est
oui,
ça pour refaire
voilà,
des acronymes.
C'était pas facile, pas difficile et très tentant d'inventer ce nouvel acronyme comme quartier intelligent modélisé. Alors, les acteurs de la construction connaissent bien le BIM, hein, une maquette numérique, donc une représentation 3D du projet, mais hyper renseignée, dont le but est d'être partagé, enrichi au fur et à mesure de l'évolution du projet et de l'entrée en vigueur des différents métiers qui concourent à la réussite d'un projet. Bon, ça, c'est à peu près identifié et connu au niveau du bâtiment. Le faire au niveau du quartier ou de la ville, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Notre objectif, c'est d'avoir une modélisation 3D réaliste du projet. Alors, j'en profite pour dire attention à l'effet waouh que l'on trouve sur certaines proposition d'acteurs qui exploitent les open data et qui vous livrent comme ça toute votre ville en 3D. Vous dites, ah, c'est génial, la moitié du travail est fait. Quand vous zoomez dessus...
On entend l'architecte là, qui parle.
Non, mais quand vous zoomez dessus et que vous allez jusqu'à votre parcelle, c'est peut-être globalement juste, mais c'est quand même totalement faux à l'échelle de la vraie précision qu'un projet réclame. Donc, voilà, nous, on va requalifier ces données. Si jamais on s'appuie sur ces open data, on va les requalifier. L'idée, d'abord, c'est d'installer, et c'est ça le principe, d'ailleurs, de la maquette numérique, c'est d'installer du mode collaboratif. On dit souvent, le BIM, c'est 20% de techno pour 80% d'humain. Ça sera au moins pareil. Alors, ça va se décliner à tous les stades du projet, parce qu'il faut, on a vu qu'il y avait des acteurs multiples, il faut les prendre par la main, les accompagner, je dirais, dans une aventure joyeuse et pas stressante. Aujourd'hui, c'est très, très stressant, une opération d'urbanisme. Les gens voient arriver des spécialistes, des urbanistes, des architectes avec des beaux schémas, des croquis, des trucs qu'ils savent pas décrypter. Aujourd'hui, grâce à notre modélisation, on va complètement démocratiser la compréhension du projet. C'est le premier intérêt du KIM. On va démocratiser la compréhension d'un projet, de ses variantes, de ses alternatives. natives, tout le monde pourra les comprendre instantanément.
Ça veut dire qu'on va pouvoir les consulter assez naturellement
Y compris à distance, y compris en réunion publique. On va faire, on a un outil qui s'appelle BeamScreen, qu'on a développé par ailleurs, qui permet de l'immersion virtuelle, et donc il y a ça du 3D collaboratif, y compris à distance. Donc on peut imaginer même des séances de concertation publique, où chacun peut quand même rester chez lui, où certains sont dans une salle avec le maire, voilà. Donc ces procédés de démocratisation et finalement d'une conception, concertation partagée pour mener à bien un projet. La deuxième idée, c'est que tout de suite on va installer entre les acteurs techniques de l'opération une même représentation, des diagnostics partagés. On va éviter à chacun de perdre des heures à refaire des métrés, des quantités, des vues particulières. Voilà. On va faire passer un drone sur tout le quartier. Ça coûtera toujours moins cher que de faire passer 50 fois un drone pour relever un bâtiment et puis étaler sur 3 ou 10 ans. Voilà. Donc, c'est évident qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette maquette pour faire le travail technique que font les architectes, les bureaux d'études, les économistes, les spécialistes du zéro carbone. Voilà. Donc, on va capitaliser de l'information là-dessus. Ça va nous aider aussi à pouvoir tendre la main aux innovateurs, que ce soit des entreprises ou des industriels, puisqu'on aura cette maquette qui pourront enrichir, on pourra tester des solutions.
Qui va permettre aussi d'aller vers l'industrialisation, et c'est ce dont on va parler, voilà, évidemment, dans un instant avec Sébastien Delpont. Oui.
Je termine juste le process.
Ah, vous avez encore
pendant
le temps.
Pendant la phase chantier, bon, donc ça va fiabiliser aussi la consultation des entreprises, ça va leur faciliter le travail. Pendant la phase chantier, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du 4D, du 5D, c'est-à-dire les plannings, et montrer tout ça aux habitants qui comprendront comment l'affaire va se dérouler. Et in fine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une base de données, Big Data, éviter que les GAFA nous les pillent au passage, pour que ça reste aux mains de la collectivité pour une gestion prédictive, donc plus économique, de ces quartiers pour les 100 ans de bonheur qui suivent.
Alors, je vais passer la parole à Sébastien Delpont, mais il y a un aspect que je trouve aussi intéressant dans cet aspect, dans cet outil KIM, c'est d'incorporer tout ce dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas uniquement du numérique pour des bâtiments, mais le confort, l'accessibilité, la qualité de l'air, le bien-être, enfin, toutes ces notions-là aussi sont intégrées dedans.
On est multicritères, et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont très agiles, qui sont développés, qui permettent, à partir de ces maquettes, qui exploitent finalement la géométrie délivrée, eh bien, d'aller tester en multicritères. Est-ce qu'on pousse plus le bilan carbone ? Est-ce qu'on pousse plus le bilan énergétique ? Est-ce qu'on pousse le bilan respect des réglementations essentielles ? Voilà. On a ces outils à portée de main et les acteurs doivent maintenant se former pour s'en emparer. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 5 ans.
Alors, Sébastien Delpont, peut-être un commentaire, parce que finalement, ça fait la transition à travers ces outils
numériques
aussi.
Je rejoins beaucoup François sur ces sujets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Google Street View suffit à prévoir les choses. On a plein d'autres dimensions qu'on doit intégrer. Et même les données énergie et open source, c'est des informations utiles, mais absolument pas suffisantes. Savoir quelle est la capacité d'une façade à absorber un surpoids, parce que je vais apporter une isolation par l'extérieur, c'est une information que nous donne pas ce type d'outils actuels, et qui sont pourtant essentiels pour concevoir l'industrialisation possible, le caractère industriable ou pas, d'un projet de réhabilitation. Savoir quelles sont les données financières relatives à l'opération. Quel est le niveau de loyer dans une résidence, quel est le taux de ménage très pauvre, le taux de ménage CSC+, c'est aussi des choses qui vont importer sur l'économie d'un projet. Savoir si on a affaire à des jeunes couples ou des personnes âgées, dans lesquelles il y aura des travaux aussi d'adaptation souhaitable dans ces sujets-là. Donc forcément, on doit croiser des données humaines, qui sont heureusement, pour des questions de protection, pas données publiques, mais que vous connaissez les élus, parce qu'ils connaissent leur territoire et connaissent les citoyens. Combiner ces données techniques qui sont, j'ai envie de dire, invisibles par drone, qui sont aussi en tout cas importantes à combiner. Et puis aussi ces données financières. Hein. Et puis ensuite, ça permettra justement de qualifier ce qu'il n'y a pas dans les plateformes existantes à ce jour, mais qui sera aussi travaillé et optimisé. C'est la comparaison entre ces configurations et l'état de l'art des solutions, pour être qualifié effectivement et aider à la décision en tout cas les acteurs de la conception, de la maîtrise d'œuvre, pour avoir en tout cas en tête en tout cas ce qui peut fonctionner dans ces cadres. Donc je pense qu'effectivement on a besoin de mieux éclairer la décision, y compris des industriels, pour qu'ils conçoivent des produits en se rendant compte quels sont les cas d'usage, les configurations urbaines dans lesquelles ces solutions font du sens. Si aujourd'hui, voilà, il faut qu'on arrête de voir le logement comme étant soit des logements collectifs, soit des logements individuels. Il y a toute une nuance et une ribambelle. Voilà, quelles sont les 32 sous-typologies de maisons individuelles ou 42 de logements collectifs. Et il faut qu'on ose rentrer dans cette nuance. Parce que même si on se dit que, voilà, on veut réfléchir les logements comme étant 26 typologies de logements, si on a 26 millions de logements à rénover, ça nous fait quand même des sacrées quantités pour chacun de ces logements. Et en gardant ce qu'on a besoin, c'est une diversité architecturale forte pour répondre, en tout cas, parmi une bibliothèque de solutions plus intégrées, celles qui vont adapter à ces différents projets. Et je pense qu'effectivement, des outils qui vont être absolument précieux pour ça.
Et alors, on en arrive au quatrième volet à travers ce que vous évoquez. C'est ce que disait François Pellegrin, c'est l'innovation. C'est l'industrialisation aussi de la démarche pour une massification.
Absolument. L'idée, c'est comment on arrive à rénover et puis à décarboner pour moins cher. On a besoin de rendre plus abordable pour que toute la société évolue positivement dans cette trajectoire de décarbonation. Et je pense qu'on peut ne laisser aucun outil de côté pour réfléchir sur les sujets, se prévenir de croire qu'il y a une solution magique et unique. De GAFA qui nous apporte une solution, voilà, c'est pas eux qui font les travaux, hein. Donc il y a un moment on a besoin en tout cas de servir des outils disponibles, d'être capable aussi de se dire, et c'est aujourd'hui la réflexion de beaucoup de professionnels, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'il faut améliorer comme outil, hein, pour arriver à réussir ce changement d'échelle.
Alors je passe la parole à Jean-Pascal Chira dans un instant, mais je vois François Pellegrin prêt à commenter tous ces sujets.
Oui, je pense que le bâtiment, maintenant avec ces outils numériques, doit comprendre qu'il faut qu'il rentre sérieusement dans l'ère de la simulation. Je trouve qu'on passe assez rapidement à l'intelligence artificielle en chantant des étapes. On va voir, comme le dit Sébastien, qu'avec cet outil, on va pouvoir stimuler nos neurones parce que... pratiquement en temps réel, en pouvoir explorer, tiens, tel système que j'ai trouvé sur tel site, on va pouvoir comparer des densités, des formes urbaines. Voilà. Bon, ces pratiques sont quand même pas monnaie courante. Et là, il y a l'occasion de moderniser, de révolutionner nos pratiques pour un résultat qui est la cible numéro un, c'est, encore une fois, réenchanter ces îlots, redonner du bonheur et de la qualité aux habitats qui, aujourd'hui, sont évidemment conçus depuis 50 ou 100 ans, ne répondent absolument pas aux objectifs d'aujourd'hui, mais on peut les requalifier.
Voilà, donc on a passé en revue hein, les quatre grands axes d'OPERAE, hein, opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine, le changement de maille, l'évolution de la gouvernance, les outils numériques et aussi l'industrialisation. Alors c'est quoi les perspectives, Jean-Pascal Chira?
Bon, d'abord je voudrais un peu pour ajouter quelques éléments, rappeler quelques points sur l'aspect vertueux d'une démarche collective. Bon, d'abord rappeler que des grandes opérations comme ça, des grands programmes d'État existent déjà, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, qui sont des opérations nationales qui vont se poursuivre d'ailleurs au-delà d'ailleurs même de la mandature actuelle. Et ça, c'est un premier point. Rappelez également que dans des opérations groupées telles que celle-ci, on doit pouvoir tirer une optimisation, un profit, des économies d'échelle au travers, justement, par la mutualisation. François en a parlé un petit peu. Gagner sur les coûts, optimiser les coûts, gagner sur les qualités, gagner sur les délais, etc. Et donc, toutes ces opérations doivent permettre finalement de rendre peut-être plus réalisables, non pas plus rentables, mais plus faisables, des opérations qui autrement pourraient buter sur des questions financières, des questions de rentabilité. Donc ça, c'est important de rappeler qu'en élargissant le spectre à l'échelle d'un élu de quartier, on rend réalisables ces opérations.
On produit de l'économie, on construira, on réhabitera moins cher. Avec notre dispositif, on espère bien faire moins 10, moins 15, peut-être moins 20, enfin voilà.
Voilà, on ose le dire. On ose le dire, mais souvent on bute sur des questions de retour sur investissement, si bien que ces fameux investisseurs aménageurs, n'y vont pas, et l'État n'est pas non plus là que pour payer des déficits. Donc il faut pouvoir trouver une espèce de bon consensus d'intérêt partagé, et en travaillant encore une fois à une échelle plus large, on voit qu'on peut y arriver. Bon, alors, un point également que je veux ajouter, parce que c'est vraiment la philosophie même du club de l'amélioration de l'habitat, c'est de voir à l'échelon large l'amélioration de la qualité de vie, aussi bien dans son propre habitat que dans son quartier, que dans sa ville. Parce que, on le voit bien, pour enclencher la décision des décideurs, des maîtres d'ouvrage, d'usage, et que ce soit d'ailleurs les gens en résidence ou même dans le tertiaire, il faut trouver un intérêt. Il faut trouver un plaisir à s'engager. Et en décrivant des modes de vie qui seront plus agréables, hein, en répondant à toutes ces questions, eh bien, on incite plus facilement à la décision. Voilà. Et donc, inévitablement, pour tenir les objectifs que nous nous fixons au plan national, hein, que ce soit sur la rénovation énergétique, énergétique, que ce soit sur l'adaptation du logement pour le vieillissement de la population, il faut pouvoir embarquer des décisions, il faut pouvoir créer une relation de confiance, avoir une capacité de le financer et rassembler les expertises. Voilà toute la démarche que nous portons au sein du club de l'amélioration.
Et alors, prochaines étapes ?
Alors, on souhaiterait bien trouver, je vais repasser la parole à François, oui, des pistes d'action. Voilà. On a quelques idées, mais on peut peut-être les repréciser, François.
Oui,
François,
on a évidemment des contacts avec des mairies pour essayer de trouver des, je ne veux pas dire des terrains de jeu parce que ça fait un peu ludique, un peu trop ludique, mais des
comme
champs
des
d'application
des
pour faire...
Des démonstrateurs.
Des démonstrateurs, absolument. Voilà, on en est là, on en parle avec l'ADEME. Beaucoup d'acteurs, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de collectivité locale, s'intéressent à notre démarche. Donc, il faut arriver à trouver quelques sites pour faire de belles démonstrations sur la pertinence de cette démarche qui va produire de l'économie et de la qualité. Et puis, ça va permettre aussi de redonner espoir. Parce que, en fait, pour faire pas mal de réhabilitation, on se considère architecte, urbaniste, paysagiste, avec les autres partenaires, comme des véritables médecins de l'habitat, comme de véritables médecins du mal-vivre, pour y remédier. Voilà. Donc, la démonstration qu'on peut faire, c'est qu'on sait parfaitement requalifier un immeuble et lui donner des vertus qu'il n'avait même pas envisagé d'avoir lors de sa construction. C'est ça qui est quand même intéressant. On sait rendre meilleur carbone, meilleure énergie, meilleur ceci, meilleur cela, un immeuble qui peut avoir 50 ou 100 ans. C'est quand même fabuleux.
Sébastien Delpont.
J'appuierai le dernier point de François. Je pense que c'est très important d'avoir une mobilisation sociétale beaucoup plus forte, une prise de conscience de ces sujets. Je veux dire, les salariés de la première ligne de la décarbonation, bah, c'est les compagnons, c'est les architectes, c'est les bureaux d'études, c'est les élus qui vont travailler dans les services d'urbanisme à ces opérations, et on voit bien à quel point c'est un défi majeur de société. Lundi, c'est la sortie du rapport du GIEC sur effectivement l'état des solutions sur
les décarbonations.
Je pense qu'on prenne l'importance et la mesure qu'il n'y a pas juste la mobilité à décarboner en faisant des jolies batteries moins chères, des usines à décarboner, il y a aussi les villes. Hein, dans leur dimension urbaine et bâtimentaire.
Surtout que de plus en plus de gens vont vivre en ville.
C'est un projet de société, c'est un sujet dans lequel on doit engager les plus jeunes à faire carrière, leur donner goût pour ces métiers, dans leur diversité. C'est-à-dire, c'est évoqué par d'autres, en tout cas, avec ces notions d'Olympiade, mais on a un sujet majeur, en tout cas, de donner goût à ce que demain, des beaux projets de recherche, de développement et d'innovation soient portés sur ces dimensions.
Alors, un mot, Jean-Pascal Chira, donc on a bien entendu l'appel. Hein. S'il y en a qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à revenir vers vous, c'est ça, allez-y.
Merci, je me permets de conclure. Vous remercier, Nathalie, de nous donner le moyen d'exprimer ce sujet. Merci aussi à Guillaume Loiseau, le patron du Mondial, parce qu'effectivement, tous les mois, nous avons l'occasion de pouvoir exprimer des sujets variés, et c'est avec grand plaisir. Nous nous retrouvons d'ailleurs dans le cadre du salon. Donc, une fois de plus, nous avons pu apporter quelques idées, quelques propos, quelques projets, quelques recommandations pour améliorer finalement la rénovation de l'habitat, améliorer la qualité de vie au sein des habitats, puisque encore une fois, c'est la raison d'être du club de l'amélioration de l'habitat depuis 30 ans. Et ça va durer.
Voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut dédier cette séquence et ne pas être que dans des aspects très techniques, mais ouvrir sur ces sujets-là qui sont évidemment centraux. Merci à vous, Jean-Pascal Chira, donc délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat, à François Pellegrin, architecte urbaniste, et puis à Sébastien Delpont, notamment fondateur d'Énergie Sprong France. Je recevrai à nouveau avec grand plaisir, hein, puisque j'espère qu'on est parti encore pour pas mal d'émissions. On va marquer une pause et puis avoir la séquence Construction 4.0 qui va rejoindre finalement ces sujets-là, je vous ai dit, c'est en filigrane avec la notion de coût global dans l'immobilier et comment le hors-site aussi peut réduire les coûts d'exploitation. Et on aura d'ailleurs un des auteurs, avec un E, auteureux, si je puis dire, de ce fameux sixième rapport du GIEC. Donc vous voyez, c'est vraiment le sujet de climat est en filigrane ce matin. On se retrouve dans un court instant.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.